Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du vendredi 21 novembre 2025. On se retrouve avec un Bitcoin qui passe sous les 85 000 dollars, 84 600. Au moment de l'enregistrement de cette émission, moins 8%, moins 10% du côté de Ether qui passe à 2700 et des brouettes. On a moins 11% pour Cardano, moins 10% pour Hyperliquid. Et voilà, c'est une capitulation additionnelle qui, malheureusement, à chaque micro-rebond, permet aux vendeurs de reprendre la main. On a moins 12% pour Uniswap, moins de 10 pour le crow de crypto.com qui a effacé l'intégralité du pump qu'il avait eu avec le partenariat avec Trump. Donc voilà, pour le coup, ça n'a pas vraiment porté ses fruits. Ça a été un peu une montée et une redescente tout aussi fulgurante. Moins de 18% pour Canton Network, Mantle à moins de 12, moins 15 pour NIR, moins 11 pour AAV, 155 dollars. On va voir dans un instant, peut-être que pour AAV, ça commence à devenir intéressant, mais également lors des fameuses phases de bear market qui durent un certain temps. Est-ce qu'il faut se précipiter pour acheter le couteau qui tombe? Ça, c'est une question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui. Moins de 12% pour Ethena, moins de 10% pour Ondo et on clôture le top 60 désormais à 1,1 milliard de capitalisation. On était à 1,25, 1,30, donc un gros recul même pour les cryptos comme ça qui ont à peu près 1 milliard de market cap. En tout cas, le 4 heures ne nous donne pas de signaux de force à court terme. On est dans l'extrême fear, la peur extrême du côté du Crypto Fear and Greed. Les supports suivants, désormais qu'on est plutôt d'ailleurs en live en train de percer relativement fort à la baisse, 82, 83, on est même venu mécher 81 ici, ça se trouverait autour des supports qu'on avait travaillé au moment des tarifs de Trump, c'est-à-dire entre 75 et 78. Donc on y arrive très vite. Peut-être que ça va permettre de passer une certaine page de ce début de bear market pour novembre et qu'on aura un petit peu mieux au cours du mois de décembre avec notamment, je ne saurais toujours pas l'expliquer, le fameux Santa Claus Rally autour de la deuxième et troisième semaine du mois de décembre. Donc on pourrait voir à ce moment précis si on vient chercher enfin un support et qu'on a de la réaction de marché autour de 75 à 80, grosso merdo. Pourquoi pas un retour autour des 90-92 et encore mieux viser les 100 000. Et c'est ce qu'on a vu d'un point de vue de l'analyse on-chain hier avec On-Chain Sapiens. Je vous invite à regarder la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu. Grossièrement, c'est ce qui se passe la plupart du temps. On revient chercher la zone de résistance qu'on a perdue précédemment. Et si les 100 000 font barrage, ça voudra dire que définitivement, on risque d'aller plus bas et peut-être beaucoup plus bas que les 75 000 dollars. Au niveau des infos, accrochez-vous, il y a beaucoup de choses à passer aujourd'hui. Alors, on va essayer d'aller relativement vite. On a la liquidité mondiale qui est complètement décorrélée à présent du cours du BTC. Malheureusement, beaucoup de personnes s'accrochaient à ça un peu comme un peu une dernière bouée de sauvetage ou une branche à laquelle on essaie de se raccrocher. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas pour le court terme, comme c'est très bien décrit ici par Fineco et notamment l'injection monétaire qu'il y a eu du côté de la Chine et qui pour l'instant ne bénéficie pas malheureusement aux crypto-monnaies. Le bottom à 1,618 Tony the Bull qui nous mettait en avant les cycles précédents où systématiquement on est venu chercher cette zone sur le point bas de bear market. Aujourd'hui, il serait autour de 52 300. Donc à peu près tout nous ramène autour de cette zone élargie des 50-55 000 dollars et je pense que pour le long terme, en effet, ça en fera une zone de choix. Le modulo à court terme, c'est que la plupart du temps, l'erreur commune, c'est de se précipiter pour payer trop tôt avec une phase baissière qui est intense et donc traumatique. Il se passe souvent par la suite une période de latence à plat qui, là, est la plus propice à l'investissement. De même que si vous faites du DCA sur suffisamment longtemps, bien entendu que ça peut être intéressant de commencer aujourd'hui et de lisser au plus en descend, peut-être de plus en plus fort pour essayer de faire un DCA intelligent. Comme d'habitude, pas de conseils en investissement sur cette chaîne, mais juste du bon sens au niveau de la réflexion de comment se comporter lorsqu'il y a des phases baissières comme ça, beaucoup plus importantes que ce qu'on a connu, puisqu'on va le voir au niveau de l'analyse technique, je pense que c'est plié désormais totalement. S'il y avait encore un petit doute la semaine dernière qu'on ne soit pas en bear market, là voilà, c'est plié et totalement plié, pour le coup on a toutes les confirmations. Axel Kibar qui met en avant la CWI, qui est donc le All World Country, c'est en gros comme le MSCI World, mais en y ajoutant les marchés émergents, donc je ne sais plus dans quelle proportion exactement, vous m'en voudrez pas, je n'ai pas tous les ETF en tête, mais grosso modo, c'est ça. On a la moyenne mobile, donc 200 jours, qui est autour de $130, puisqu'on est coté sur le Nasdaq, c'est bien ça, et le support long terme autour de 123, sachant que le cours est à 135 aujourd'hui. Donc peut-être aussi des belles opportunités pour le long terme à venir d'ici le premier trimestre 2026. JP Morgan qui met en avant un énorme warning quant à MicroStrategy avec une exclusion potentielle en janvier du MSCI de l'indice. Donc on pourrait là aussi voir une redistribution du côté des Ethereum et Bitcoin Treasury Company. Et pour l'instant, MicroStrategy qui déroule très très fort à la baisse. C'est typiquement une action qui risque d'aller très bas lors du bear market et qui risque de faire encore plus flipper les crypto-bros, malheureusement, à partir du moment où on a ce fameux MNAV, c'est-à-dire tous les bitcoins qu'ils détiennent qui sont, on va dire, à perte par rapport aux actions qu'eux-mêmes ont émises et qui sont totalement diluées aujourd'hui. Donc, normalement, même si Bitcoin, comme il le dit lui-même, Saylor, reculait de 80-90%, chose qui a assez peu de chances de se produire, mais pourquoi pas, il faut toujours prendre le pire du pire des cas, il disait qu'il n'y a aucun potentiel de liquidation avant 2028, 2029, 2030. Donc théoriquement, si d'ici là, le Bitcoin nous refait son cycle, etc., et que ça remonte, ça ne devrait pas si mal se passer. Mais entre-temps, on commence à apercevoir des sociétés, notamment qui n'ont pas du tout les reins solides du côté de Ethereum, qui sont en train de vendre des Ethers alors qu'ils étaient censés ne faire qu'en accumuler. Hier, le S&P 500 américain a effacé en moins de 2 heures de temps, notamment avec Nvidia qui a reculé de 3 à 5%. Je crois qu'au total, si on efface les 5% en positif qu'il y avait eu lors du rebond là, des annonces du troisième trimestre qui ont été très bons, on a reculé de moins 3, donc moins 5, moins 3, ça doit faire moins 8. C'est quand même assez énorme. Et donc, c'est le S&P qui a reculé en seulement 2 heures de temps de 1500 milliards. Soit la moitié du market cap crypto, ça n'est pas rien. Alphabet, Google qui devient la troisième plus grande capitalisation derrière Apple et devant Microsoft. Donc on est désormais sur un trio de tête à 3680, 4077 pour Apple et Nvidia sous les 5000 à 4755. Les collectionneurs de cartes Pokémon rattrapés par le fisc, en effet toute transaction supérieure à 5000 euros relève du régime des biens de consommation. Donc attention aux plus-values actées en effet du côté des cartes Pokémon. La méga concentration sur Nvidia, puisque 61% de son revenu vient de seulement 4 clients, donc souvent ça gravite un peu autour des mêmes grands clients, et notamment du côté de l'intelligence artificielle. Donc quand bien même les chiffres sont bons à court terme, pour l'instant ça n'est pas totalement salué du marché, et on a de plus en plus de fonds en plus et de banques d'affaires qui disent qu'on pourrait être dans l'IA au niveau d'un top de bulle, donc ça alimente à court terme un narratif. Peu importe qu'on y soit ou qu'on n'y soit pas réellement, du moment qu'on arrive à convaincre suffisamment de gens que ça pue un peu, ça déclenche des prises de profit. Et en plus, la période s'y prête totalement, puisque la fin d'année, on doit boucler, bien entendu, à la fois les budgets, les bilans et rendre des comptes aux investisseurs. Donc, ils vont devoir montrer des performances. Ils n'ont pas franchement envie de reculer comme ça en quelques semaines de dizaines et de dizaines de pourcents. Toujours d'un point de vue on-chain, mais je reviens que très rapidement dessus, puisqu'on les a vus ces zones avec Unchained Sapiens, on a le Realized Price qui est autour de 56 000, le True Min Market qui est autour de 82-83, le 88-6 qui a été perdu avec les Active Investor Mins et le Short Term Holder Cost Basis qui était à 110 et qu'on a complètement pulvérisé à la baisse. Donc au plus on baisse, au plus finalement ça met des gens qui sont des investisseurs long terme sous l'eau, et au plus ça renforce cet effet domino où on a des petits dominos au début qui sont les mains faibles entre grands guillemets, et ensuite on vient chercher les moyens, les longs termes, et c'est à partir de la capitulation des long-termistes que là, en général, on pose un bottom. Ce qui est marrant également, tout est relatif, c'est que au niveau de la saisonnalité du bear market, si on prend 2018 et 2022, on est pile poil dans les clous de nouveau de ce qui s'est passé précédemment, et on pourrait avoir donc au niveau de cet appel-là un point qui serait défini quelque part entre janvier 2026 et autour de le printemps 2026, si ça se passe comme précédemment, avec un premier pump qui se passerait entre le printemps et l'automne 2026. Et en 2027, l'année de récupération, comme on avait eu en 2019 et comme on avait eu en 2020, si je dis pas de bêtises, avec un halving qui devrait arriver en 2028 du coup. Pareil, je vous fais l'émission comme ça sans avoir tous les chiffres en tête, donc n'hésitez pas à me corriger si jamais je me trompe en quoi que ce soit. On fera remonter le commentaire, bien entendu. Les sociétés liées de près ou de loin à la crypto, les Coinbase, les MicroStrategy, les BMNR, les Hut 8, les Wolf, TerraWolf, Marathon, Riot, Hive, on est entre moins 50 et moins 30 et quelques pour Coinbase. Ça commence vraiment à faire très très mal. Donc attention, ça n'est pas fini. On aura très certainement des rebonds qui seront à la hauteur de ce qu'on vient de perdre et pourquoi pas en décembre pour le Santa Claus Rally. Mais voilà, à court terme, essayez de vous protéger aussi d'un point de vue psychologique. On a fait un post également sur les biais cognitifs, les peurs irrationnelles, et on essaiera d'en faire de plus en plus. Mais comme d'habitude, essayez de ne pas trop vous auto-flageller, de ne pas regarder vers le passé en vous disant « Ok, j'avais un gros chiffre sur le portefeuille 3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois en arrière. » Et aujourd'hui, la seule possibilité que vous avez, c'est d'interagir avec le présent, de prendre les bonnes décisions aujourd'hui pour les prochaines années, et c'est tout ce qui compte là dans l'immédiat. Le chart de Nvidia en annuel, je ne sais pas si on a besoin de beaucoup le commenter. En tout cas, ça ressemble un peu au chart passé quand on regarde en linéaire du côté de Bitcoin. On sait comment s'est terminée la musique systématiquement. Le DXY donc, qui est venu au-dessus des 100 points, donc c'est quelque chose qu'on attendait depuis pas mal de temps. Là aussi, pas mécontent que ça se réalise tel qu'on laisse compter finalement. Comme d'habitude, le but n'est pas d'avoir raison, mais d'essayer de jouer des scénarios. Et si ça se passe comme on le prévoyait quelque part, eh bien, ça n'en est que mieux. Et nous, de notre côté, que représente un dollar qui remonte? Eh bien, ça veut dire que l'euro s'affaiblit. Et la bonne nouvelle, c'est que malgré tout, ça permet de tanker un petit peu pour ceux qui ont des actifs en dollars ou cotés comme les ETF en dollars, mais en euros du côté des PEA ou des CTO. Ce qui fait que, on a un équilibre qui est en train de se créer malgré le fait que les ETF sont en train de reculer face au dollar. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu bizarre ce que je viens de dire, mais grosso modo, ça nous permet, nous, d'amortir un tout petit peu la chute, le fait que le dollar se renforce à court terme. On a AAV qui tease l'arrivée de son V4 en testnet. Vous pouvez tous le tester d'ailleurs en connectant n'importe quelle wallet. Le gros point fort, ça va être toute la fusion de la liquidité, multi-chain, etc. Donc on en discutera. J'ai envoyé l'invitation à Marc, bien entendu, puisque qui d'autre que Marc pourrait nous parler de AAV en bonne et due forme. J'espère qu'on pourra vous le faire très prochainement. Mais en tout cas, cette V4 vraiment fera de AAV, je pense, le leader incontesté et incontestable au niveau de la DeFi, et notamment pour les particuliers, mais aussi pour les institutionnels. Aujourd'hui, on a aussi des morphos qui sont très bons, on en a d'autres à la table. Chacun ont leurs utilités, leurs points forts, leurs points faibles, leur public, et chacun cible peut-être une utilisation un peu différente, mais c'est bien aussi d'avoir du challenge au niveau, tout simplement, de cette industrie. Le gold qui consolide pour Bob Lucas, qui pourrait trouver un point bas autour de 3 500-3 600 $, peut-être même 3 700 plutôt si on s'en fie à ce chart, avant de repartir courant 2026 toujours vers le haut. Donc peut-être qu'on en est qu'à mi-chemin de ce bullrun du gold, et ça laisse quand même se poser pas mal de questions quant à l'aspect géopolitique au travers du monde. Pourquoi le gold reste si haut si longtemps? C'est peut-être que malheureusement, eh bien, on risque d'avoir par la suite beaucoup de pays qui continuent au niveau de leur banque centrale aussi d'en accumuler, et c'est peut-être un signal avant-coureur que on va vers des temps de plus en plus difficiles d'un point de vue et monétaire et peut-être un jour humain, je l'espère pas. Kraken qui dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis. Donc ils ont déposé le fameux formulaire S1 et ils seront introduits quand ils auront eu toutes les autorisations. Donc peut-être que ça aussi, en plus de Circle, si c'est introduit au cours du bear market, ou alors ils repousseront d'un an s'ils sont pas trop bêtes. Mais si Kraken venait à être introduite au cours du bear, ça nous ferait une super société sur laquelle spéculer, un peu comme Coinbase qui était passé à l'époque de 440 à 30-35 $ en 2022. Là, pour le coup, Circle et Kraken, on les attend de pied ferme. Donc c'est 45% des fund managers au niveau de la Bank of America en novembre qui disent qu'on pourrait être dans une bulle AI. Donc c'est quelque chose à prendre en considération puisque c'est en augmentation forte sur les derniers mois et derniers trimestres. iBit, donc l'ETF de BlackRock, qui continue d'avoir des outflows complètement fous. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui était à surveiller et dont on avait vraiment tiré la sonnette d'alarme à partir du moment où il y a, je sais plus, c'était au minimum il y a 3 semaines, on commençait à avoir des sorties nettes plusieurs jours d'affilée de 500 millions au niveau des ETF. Et c'est exactement ce que nous avait dit l'IA, de surveiller ce truc et que ça pouvait être un des gros signaux avant-coureurs que derrière ça allait dérouler. Et pour le coup, ça s'est déroulé. Coinbase qui prévoyait en août 2025 une belle alt season dans sa newsletter institutionnelle. Donc comme d'habitude, ça laisse se poser la question, est-ce qu'ils savaient, est-ce qu'ils voulaient permettre justement à la liquidité de sortir, ou est-ce qu'ils se sont tout simplement trompés? Ça paraît quand même un peu cocasse pour ceux qui ont toutes les cartes en main et la visibilité à 360 sur l'intégralité de ce que fait le marché, y compris leurs clients, tant sur le plan institutionnel que sur le plan des particuliers. Timothy Peterson qui nous disait que le même pool, donc je sais pas comment on pourrait traduire ça d'un point de vue de la blockchain du Bitcoin, je suis pas un énorme techos donc vous m'en voudrez pas, mais grossièrement c'est peut-être un peu la mémoire tampon au niveau de la blockchain du Bitcoin, et eh bien elle est quasiment à zéro, donc on n'a pas d'attente, les blocs se déroulent très bien, et les trois dernières fois que ça s'est déroulé, donc mars 2018 à décembre 2018, le prix du Bitcoin a reculé de plus de 50%, juillet 2019, mars 2020, pareil, on a reculé de 50%, juillet 2021, décembre 2022, moins 50%. Donc, grossièrement, peu importe comment on prend le truc, chaque statistique nous ramène inéluctablement, j'ai envie de dire, autour de la zone des 50 000 $, tant d'un point de vue technique que d'un point de vue on-chain, que d'un point de vue comme ça de statistiques historiques. Donc, comme d'habitude, je vous fais passer le mot et ensuite, vous en faites absolument ce que vous voulez. On a la Tesla Model Y, petit hors-sujet, mais qui a récolté les meilleures notes même devant l'ancienne Model Y au niveau du Euro NCAP pour la sécurité, tant pour les contacts, donc les collisions, que ça soit latéral, frontal, etc. La protection des occupants et notamment des enfants à l'arrière qui est la plus haute note, 93%. Et le Safety Assist à 92% qui est désormais notamment au travers des aides à l'autoconduite et pour des choses qu'on ne voit pas forcément et sur lesquelles on réagit peut-être parfois un peu tard. D'un point de vue de nos cerveaux humains, la machine, elle, voit tout en temps réel et peut réagir parfois beaucoup plus vite. Dissonance au sein même du consensus scientifique quant à la cryptographie par rapport à l'informatique quantique. Et c'est Vitalik Buterin qui signale que la cryptographie à courbe elliptique pourrait être compromise par l'informatique quantique d'ici à 2028. Donc beaucoup disent que c'est un non-sens et un non-risque. Et pourtant, Vitalik Buterin reste malgré tout un des génies de cette industrie. Et il tire désormais une première sonnette d'alarme. Et on clôturera au niveau des infos par ce poste où on a essayé de remonter un petit peu ce qu'on a raconté ces deux dernières années pour voir si on n'a pas raconté trop de bêtises pour le coup. Et je pense, c'est pas peu fier, qu'on a eu des prédictions ou des prévisions de marché qui se sont pas trop mal réalisées, parfois un peu trop pessimistes, rarement trop optimiste pour le coup par rapport à d'autres. Et c'est vrai que ces dernières années, vous nous avez qualifié dans l'auditoire peut-être de personnalité un peu plus pessimiste, donc on l'accepte également par rapport au cycle passé, mais également aujourd'hui on a beaucoup beaucoup de retours qui nous remercient d'avoir poussé à prendre des profits en continu et d'avoir réalisé des performances positives qui sur ce cycle ont été très difficiles. Donc on a remonté les prédictions de 2024, les prédictions de 2025, le poste de mars 2024 où on venait chercher quelque part entre 100 et 150 000 dollars à la fin en termes de prix et notamment en comparaison à l'euro. On avait les trois scénarios pour le premier trimestre 2025, notamment suite à l'investiture de Trump. Les projections et objectifs techniques réalistes, pareil en février 2024 par rapport à ce que pourrait être le cycle donc qu'on vient de vivre, et également les futurs points bas de bear market où on visait déjà quelque part entre 35-40 à 50-60 000 $. Et enfin, un des postes où, pour moi, ceux qui auraient réalisé ça, je pense qu'on n'est pas beaucoup à l'avoir fait, faut pas se mentir, mais ça aurait été le move, le banger de 2025, c'était de convertir, on va dire, entre décembre 2024 et janvier 2025, ces cryptos, notamment celles qui avaient des gros gains, en or directement si vous pouviez le faire, ou en stablecoin or, et vous aurez bénéficié d'une trend complètement folle au niveau du gold tout en absorbant le choc du côté crypto. Donc une fois de plus, c'est un poste qui a été proposé le 14 janvier 2025 et je pense que l'histoire nous a donné légèrement raison. En attendant, raison ou pas, parce que comme d'habitude il faut prendre le tout avec énormément d'humilité et c'est ce que j'essaie de faire, donc l'immense majorité du temps on revient pas sur le passé pour pour dire « Ok, on a dit ça, ça s'est réalisé, ça s'est pas réalisé. » Le but n'est pas d'avoir raison, mais le but est de réaliser quelque chose de positif au travers du temps. Et aujourd'hui, eh bien malheureusement, pour le crypto total, on perd les 3000 milliards. On est au contact de la moyenne mobile 100, c'est un support dynamique. Ça pourrait, à court terme, peut-être faire tenir le cours autour de 2800 milliards. Et ensuite, on a le 0,5 de Fibo qui est autour de 2500. C'est l'énorme zone des fameux 75-76 000 pour Bitcoin du printemps. Et enfin, la moyenne mobile long terme 200 qui jouxtera d'ici début 2026 autour de 2000 milliards et qui correspondrait peu ou prou au fameux 55 000 dollars du côté de Bitcoin. À noter également que les deux supports entre 42 et autour de 39-40 pour le crypto total vient d'être perdu. On continue d'accélérer, les histogrammes sont extrêmement baissiers pour le MACD qui vient de croiser la zone neutre, donc statu quo à court terme. Il faudra trouver, je pense, du support un peu plus bas. En attendant, pour le Bitcoin en tant que tel, eh bien, on est autour du 0,38-2, 83 845, moyenne mobile 100 qui est autour de 83 000, le support du printemps 75-60, on en est vraiment plus très loin, et le 0,5 ensuite qui est à 70 000, moyenne mobile 200 qui aujourd'hui est à 55,5 comme vous le savez, 0,618 qui est à 57, et ensuite on a toutes les zones bien entendu sous les 50 000, hein. À partir des 50 on viserait autour de 38-40, pareil RSI qui est désormais à 34, sachant que au cycle précédent quand on avait Terra et FTX on est venu à 25-26, donc il faut laisser ce couteau se planter, et c'est une réflexion que j'étais en train de me faire de mon côté. Comme ça, je cogite beaucoup à ce que pourrait être le lendemain, bien entendu, vous vous en doutez bien, et je pense que vous êtes beaucoup à réfléchir ainsi à court terme. Et je me disais que cette correction, quand on voit qu'on vient de faire 4 semaines de baisse consécutive, ça n'était arrivé à l'époque que justement en 2022, eh bien, pourrait marquer peut-être un bear market bien plus rapide qu'on ne le pense, avec peut-être une récupération flash autour du premier trimestre 2025. Ça reste encore d'énormes suppositions, parce que vu qu'on comment c'est parti, c'est quand même assez moche, mais en tout cas pour l'instant on a quelque chose de très très rapide par rapport à l'accoutumée. On a la stablecoin dominance qui est en train de franchir la zone des 0.09, attention danger, on a une épaule tête épaule inversée qui est bien qu'elle soit très moche sur le papier est bel et bien en train de se réaliser. Là aussi c'est pas pour dire on l'avait dit, mais bon on l'a spoté relativement tôt en amont, et ça je suis pas persuadé de l'avoir vu sur d'autres médias ou sur Twitter, ou voilà, des warnings qui allaient tout simplement en ce sens. On a la Bitcoin dominance qui continue d'être bloquée par la moyenne mobile 20, donc on n'arrive pas à reprendre les 59-60. Pour l'instant, ça bloque, mais c'est des amplitudes qui sont somme toute voilà, faiblardes. Ceci étant dit, lors de ce dump-là récent, on a malgré tout l'impression que les alts perdent un petit peu moins que par le passé face à Bitcoin. Le souci, c'est qu'on avait déjà des alts depuis un an, parfois deux ans quasiment, qui étaient déjà en bear market. Donc c'est normal, j'ai envie de dire, qu'au bout d'un moment, il n'y ait plus grand monde qui va le vendre tout simplement. On perd le support des 2850 pour Ether, c'est catastrophique, mais on a la moyenne mobile 200 en dessous à 2450. La zone où ça commence à m'intéresser à payer pour du long terme, à 2150, support suivant autour de 1800-1900, et enfin la zone d'il y a deux cycles entre 1400 et 1500 dollars. Donc à voir ce que Ether va nous donner en termes de points bas pour du long terme, à voir si vous croyez toujours en Ether ou si vous préférez vous positionner sur des Solana, sur des Hyperliquides ou que sais-je. Comme d'habitude, vous êtes seul juge au niveau des choix que vous ferez pour votre portefeuille pour les prochaines années, à ceci près que ce cycle nous aura montré qu'il vaut mieux quand même avoir une bonne partie en BTC pour essayer de faire tenir les fondations de tout ça. Comme je vous disais à l'instant, et c'est là où c'est cocasse, malgré le fait qu'on a des reculs sur le S&P et le Nasdaq, eh bien on a le WPEA et le CW8 qui sont en positif de 0,70. Pourquoi ? Puisqu'on avait le DXY, le dollar américain, qui a franchi les 100 points. Alors pour l'instant, ça bute, hein, toujours autour des 100. Ça fait deux fois qu'on se fait repousser, mais on voit qu'on est plutôt orienté là, pour le coup, sur une configuration de bottom, et où on pourrait venir rallier sur ce premier trimestre 2026, pourquoi pas les 103 points pour le DXY. Le S&P 500, 5538 au contact de la moyenne mobile 20. Si ça lâche, eh bien c'est l'appel d'air jusqu'à, dans un premier temps, autour de cette zone des 6150, où nous attendra 6123 la moyenne mobile 50. On a le MACD qui a croisé, le RSI qui est désormais orienté à la baisse. Donc ça va nous permettre malgré tout, dès début 2026 peut-être, et c'est là où il ne faudra pas tirer toutes ces cartouches trop vite, d'avoir des opportunités opportunités long terme, que ça soit sur la TradFi et la crypto-monnaie. Du côté des actions donc de société, attention toujours, gros danger à court terme, mais on arrive sur les moyennes mobiles long terme, notamment pour BMNR qui a reculé de 84%. Attention, on a l'impression qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils font. Eux, ils sont désormais en recul de moins 4 milliards sur leur position en Ether. Hut 8 Mining qui arrive à la moyenne mobile 20. Alors, on a peut-être un support long terme ici, autour de cette zone comprise entre 30 et autour de 32-33 $. Moyenne mobile 20. Pareil, si on rentre en bear market long terme pour la crypto, est-ce qu'on va se contenter sur Hut 8 d'un moins 40%? Je pense que ça peut aller beaucoup plus bas. C'est pareil pour Marathon. C'est pareil. D'ailleurs, Marathon est extrêmement dégradé. Pour le coup, ça, j'y touche pas avec un bâton quand je vois ce genre de chart. Coinbase, par contre, lui, on le paiera, bien entendu, au long terme, en bonne et due forme, mais pas encore. On est au 0,5 de Fibo, on perd la moyenne mobile 100, 237. Le support suivant, 0,618, 188 $. Moyenne mobile 200 à 166. Le support à 146 et le 0,618 long terme à 120 $. Personnellement, à compter du 0,618, peut-être que je commencerai à payer. On sera à moins 57, tout en visant potentiellement un retour, oui, ici autour de 120 $, c'est-à-dire au long terme, moins 73% au total, sachant que c'est un actif depuis son introduction, la première fois qu'il nous avait fait un recul d'anthologie de moins 92, moins 93%. Donc vous voyez que c'est pareil du côté de Bitcoin. Au cycle précédent, on a fait moins 77. Si ce coup-ci, on fait moins 50, moins 60, moins 65, ça en fera un des bear markets les moins durs, en tout cas de Bitcoin, qu'on ait connu jusqu'ici. MicroStrategy qui perd le petit support intermédiaire des 185 $, donc droit devant mon capitaine pour la moyenne mobile 200 à 140. Et on a un RSI qui est déjà survendu à hauteur de ce que ça avait été en mai 2022. On n'est pas encore revenu chercher mai 2020 qui était à 23-24, mais on est à 27-50. Donc là, pour le coup, d'un point de vue purement technique, MicroStrategy aura déjà effacé, je vais vous le mesurer pour ne pas dire de bêtises, si on revient à la MM200, environ moins 75%. Donc pour le coup, j'ai pas eu de MicroStrategy sur ce cycle et j'ai regardé ça un peu de loin, ça a été très volatile, etc. C'est un peu compliqué aussi de se projeter sur le long terme sur une grenade dégoupillée comme ça, où ça peut être le coup de génie de la décennie ou le coup qui va nous amener sur Bitcoin très très bas lorsque la grenade explosera. Donc c'est de la nitro dans un sens et dans l'autre, hein, pour le coup MSTR. Mais si je mets tous ces biais là de côté, comme d'habitude il faut se connaître et lutter contre ses propres biais toxiques psychologiques. Pour moi, 140, moyenne mobile 200, moins 75%, ça permettrait, là aussi quand on se fie au moins 90 qu'il a fait sur le cycle précédent, de commencer à rentrer sur une zone qui pourrait être intéressante. Après, bon, pour le coup, si Bitcoin va jusqu'à 50 000 $, je me demande justement jusqu'où pourraient descendre les MicroStrategy et compagnie. Et c'est là où ce qu'on disait à l'instant est tout à fait vrai, là, maintenant, de suite, pour toutes ces sociétés, ne pas attraper le couteau qui tombe. Ou alors, si vous souhaitez commencer à attraper un couteau qui tombe, vraiment, c'est dans des proportions infimes par rapport à l'ensemble du capital que vous souhaitez déployer. Il y a Circle également qui est en train de revenir à son prix d'introduction, donc on est à 66-67 $. Est-ce qu'on pourrait le voir beaucoup plus bas? Je pense que oui. Est-ce que ça peut être intéressant pour commencer un DCA à long terme? Je suppose que oui également, puisqu'on est désormais sur une baisse par rapport à son top d'environ moins 77, moins 78%. Donc ça, aujourd'hui, on est à 67 $. Si on revoit plus tard 300 balles, ne serait-ce que l'ancienne ATH, ça fait déjà une performance qui est extraordinaire. Si on voit cette action de nouveau à moins 50% du prix de maintenant, donc autour de 30 $, ça nous fait potentiellement à aller chercher un fois 10. Donc, pour le coup, c'est comme ça en fait qu'il faut réfléchir. C'est quelle va être la symétrie du risque de perdre 30 ou 60 balles quand on est à 30 ou 60 balles et de se dire, ok, si on revient à un ATH qui a déjà été visité à 300, eh bien, ça me fait entre x5 et x10, basiquement. Et c'est vraiment en réfléchissant comme ça systématiquement pour tous les actifs sur lesquels vous allez investir que vous y verrez beaucoup, beaucoup plus clair et que vous arriverez à vous projeter justement sur une partition dans laquelle vous êtes ok avec le risque que vous prenez à la fois de perte de ruine, mais de gain latent qui est beaucoup plus important pour le coup que ce que vous pouvez perdre, puisque la plupart du temps, je suppose que Coinbase, Circle, etc., quand ils auront perdu 70, 80, 90% de leur valeur, il y a assez peu de chances sur le papier qu'ils aillent à zéro. Je passe volontairement pas sur les altcoins parce que voilà, c'est moins de 10 à gogo. Pour l'instant, bah, faut littéralement attendre que tout ça se plante, hein, comme on disait au niveau du couteau qui est en train de redescendre. Et en tout cas, comme je vous avais parlé de AAV en début d'émission. Donc, on avait un RSI médian qui a été perdu autour de 40-41. On est aujourd'hui à 34-35. On a la moyenne mobile 200 long terme qui est autour de 137. Donc, c'est une zone de polarité importante pour AAV entre 135 et 150 dollars. Au plus bas, peut-être ici, autour de 115. Je ne le vois pas, bien entendu, revenir à son prix du bear market précédent à 45. Mais toute cette zone autour de 100 et quelques, on a fait une mèche la dernière fois folle lorsqu'il y a eu la déroute donc de toute la liquidité entre le 10 et 11 octobre. Et je pense que finalement, c'est ce traumatisme qu'on est en train de payer également. On a beaucoup de market makers qui ont dû se faire pulvériser et qui aujourd'hui, ben, finalement, ne sont même plus là pour amortir ce qui est en train de se dérouler. Donc au cycle précédent, c'était moins 93% pour AAV. Sur ce cycle, par rapport au top, la dernière mèche nous a amené à moins 80 et autour de la moyenne mobile 200, on a moins 65 et les 115 dollars, on a moins 70. Donc pareil, c'est des objectifs qui sont médians par rapport à un potentiel bear market. La question qu'on doit toujours se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, je veux prendre cette couche de risque supplémentaire d'aller sur Ether, d'aller sur AAV, d'aller sur Chainlink, d'aller sur Solana, d'aller sur Hyperliquid, ou est-ce que je veux rester uniquement du côté de Bitcoin? Et ça, c'est une question qui est tout à fait légitime. On clôturera, une fois n'est pas coutume, parce que c'est pas du tout mon dada, le côté asiatique, Japon, etc. J'y connais strictement rien, donc je suis ça de loin pour voir comment ça se déroule. Mais il y a un truc qui m'alerte un petit peu au niveau de l'Asie, c'est qu'on a en effet notamment les taux 30 ans, 40 ans pour le Japon qui sont en train de skyrocket littéralement. Et ça, pour moi, c'est un indice qui peut être, on va dire, sous-entend que l'économie est en train de se tendre, notamment avec un VIX qui nous a fait un plus 12%, donc on est au-dessus de nouveau des 26. Pour rappel, à partir du moment où on rentre dans cette énorme box des 35, 36 à 60, 80, 90, quasi 100, c'est des moments où l'économie en général est en déroute et où nous, on vient faire nos petites emplettes et nos petites affaires. Toujours est-il, je reviens donc au côté japonais de la force avec le Topix. Donc c'est pas du Topix dont je vais vous parler là, mais ça me permettra de clôturer l'émission là-dessus. On a le 30 ans et le 40 ans qui sont en train de s'apprécier énormément au niveau des bonds donc du Japon, de la Banque du Japon. Et ça, c'est quelque chose qui, par le passé, a pu aussi déclencher potentiellement ces taux qui sont très hauts, des frictions au niveau de du yen carry trade. On n'en parle quasiment plus, mais pendant des années, on a pu emprunter quasiment à taux zéro au niveau du Japon, et c'est de l'argent qui se retrouvait du côté des États-Unis ou des autres marchés. D'ailleurs, il y avait pas mal de reportages qui parlaient de ces femmes au foyer, les Madame Watanabe, quelque chose comme ça. Pareil, excusez-moi si j'écorche des noms ou des termes, voilà, je ne suis pas très féru ni du Japon ni de l'Asie en général, mais toujours est-il, il y avait des ménagères, comme on les appelle, qui spéculaient notamment sur le forex par rapport au taux de change du JPY, donc du yen, par rapport à d'autres monnaies, et qui se sont fait des petites fortunes comme ça à l'époque, notamment vis-à-vis de ce taux à zéro. Donc je sais pas s'il y a un truc un peu plus profond qui est en train de se passer, mais en tout cas, le fait que le gold soit rentré dans un bull run séculaire, que les cryptos sont en train de se casser la gueule et que le S&P 500, malheureusement, sur lequel on n'a pas réussi à capitaliser à la hausse pour nous au niveau des cryptos, est en train d'être totalement capitalisé à la baisse malheureusement. Voilà, ça fait beaucoup de choses à nouveau qui jouent contre nous pour le court terme comme d'habitude. En attendant, on a bien identifié toutes les zones long terme et je vous invite bien entendu à prendre toutes les prédispositions qui iront bien pour potentiellement en effet un bear market qui, on ne sait pas si ça va être court, si ça va être long, mais si ça se joue dans les clous de ce qu'on a vu par le passé justement, et jusqu'ici je préfère me fier justement aux statistiques que de me dire ok, ce coup-ci c'est sûr ça sera différent, on pourrait en avoir grossièrement pour jusqu'à automne 2026, point d'apogée, point d'orgue où interviendront les midterms du président des États-Unis Donald Trump. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve probablement que lundi. Ciao ciao.